Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue sur Esprit Occitanie. Pour commenter cette actualité, je suis en compagnie de l'équipe habituelle, ça fait des années, vous les connaissez, Léonore Victoria, Jean-François Mignard, Pierre Larouche, je ne vous donne pas leur titre de gloire, tout le monde les connaît bien à présent. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Bien, nous allons parler de l'état de la France, qui est quelque peu embourbé dans la pandémie, de l'Europe après le Brexit et de la difficile transition de pouvoir aux USA. Et bien évidemment, nous aurons les rubriques habituelles. Voilà, c'est Ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Alors, premier sujet, l'état de la France embourbé dans la pandémie de Covid. Alors, vous savez que traditionnellement, je fais un petit chapeau introductif du sujet. Je vais...
Brillant.
Brillant, oui. Alors là, vous allez voir, c'est beaucoup plus brillant. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un texte qui m'a semblé intéressant. Donc, je vais vous le donner. Il est écrit par un essayiste, un chroniqueur, un avocat aussi. Alors, je vous donne son texte et je vous dirai son nom, bien sûr, après. Donc, encore une fois, ce n'est pas de moi. Voilà ce qu'a écrit presque notre collègue. Je le cite. « L'interminable juin 1940 de la santé publique française face au Covid-19 se poursuit. Après la pénurie de masques et de tests, l'absence de mesures d'isolement, le fiasco de l'application numérique, notre pays figure dans les tout derniers du monde développé par le nombre de personnes vaccinées, qui se limite à quelques dizaines de milliers, alors que 520 000 doses sont livrées chaque semaine depuis fin décembre. Cette situation est aberrante. Le retard français dans la vaccination accroîtra le nombre de victimes de l'épidémie, qui s'élève déjà à plus de 67 000 morts. Il achèvera aussi de ruiner notre économie qui perd 1 milliard par jour en chute de la production et diminution des recettes fiscales du fait des mesures sanitaires et qui ratera le train de la reprise. L'État porte l'entière responsabilité de cette faillite. Elle est politique puisque le gouvernement n'a pas préparé un plan de vaccination destiné à protéger au plus vite la population, mais un plan de communication pour se prémunir des critiques des opposants à la vaccination. Elle est médicale, les multiples erreurs dans le volumineux protocole de vaccination s'ajoutant à l'application absurde à la vaccination des procédures d'examen et de consentement requises pour les interventions chirurgicales lourdes ou les essais de thérapie génique. Elle est opérationnelle et logistique avec la pénurie de supercongélateurs et la paralysie des circuits de distribution. Elle est industrielle puisque notre pays, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la Chine ou à la Russie, ne disposera pas d'un vaccin développé par un opérateur national avant fin 2021. Bon, voilà, ce texte me semblait intéressant. Donc, je vous dis, il a été écrit par un avocat, un essayiste et un chroniqueur. Vous le connaissez tous, il s'appelle Nicolas Bavresse. Donc, je pense que c'est un nom qui vous est connu. Je n'ai pas besoin de le présenter. D'ailleurs, je ne le connais pas plus que ça, si ce n'est pour l'avoir écouté ou lu quelques fois. Alors, sur cette introduction, ben, qui me semble quand même pas mal situer le débat et replacer les choses dans leur contexte, eh bien, je vous propose de parler. On a plusieurs sujets qu'on peut aborder à partir de là. On va parler de la stratégie vaccinale. On va parler de l'action des dirigeants politiques. Est-ce qu'ils sont encore à même de pouvoir imposer des mesures fermes? On va parler également du programme de Macron, parce qu'il y avait quand même un programme. Il semblerait qu'il ait quelques velléités aujourd'hui de nous dire « mais parlons d'autre chose et voyons les réformes que je voulais instituer ». Et puis, on va essayer de voir comment pourrait se dessiner l'avenir du pays. Donc, sur cette présentation et sur ces questions, qui veut commencer, Jean-François?
Oui, peut-être. Alors, bon, c'est la tâche n'est pas facile. Parce que elle est... On est dans la seringue, sans vouloir faire un jeu de mots extrêmement déplacé, peut-être. Mais par rapport à la pandémie, nous sommes dedans. Donc, voilà. Alors, une réaction un peu taquine à cet éditorial, qui est un éditorial fait par un libéral, quand même, hein, quelqu'un qui s'affirme comme libéral, d'ailleurs, hein, libéral au sens économique du terme. Ce monsieur est un ancien énarque, hein, de la promotion Montaigne. Hein, et je trouve qu'il est... Il fait une impasse absolument terrible quand même sur toute une série de choses. Enfin, d'ailleurs, ce sera peut-être des choses que je serai éventuellement amené à redire. On charge le gouvernement. Alors, les gens qui nous écoutent savent que je ne suis pas un macronien forcené.
Hein, ah bon?
Mais, non, voilà. Mais on charge facilement un gouvernement en leur envoyant son incompétence conjoncturelle concernant la situation d'épidémie que nous vivons. Mais il me semble que la situation d'épidémie a un effet loupe sur quelque chose qui est beaucoup plus structurel. C'est pas que la faillite du gouvernement, même si il y aura, et certainement on ne va pas se limiter à évoquer des tas d'incompétences, le fait qu'effectivement on remplace la stratégie par la communication. Je ne veux pas te faire de pierre à la roue, mais je trouve que les spin doctors ne sont pas forcément des gens qui sont les plus à même de pouvoir mener des politiques publiques. Et, mais c'est quand même quelque chose de l'ordre du structurel, c'est-à-dire que sur quoi on est confronté, c'est quand même un système de santé publique qui a été largement transformé, on va dire, dans une logique assez libérale. Ces dernières années, tout gouvernement confondu avec des hauts et des bas, ils ne sont pas tous fait la même chose, mais voilà, on est déjà dans des éléments qui sont des éléments qui viennent, l'épidémie nous révèle ça, on est dans une conception qui est une conception idéologique au-delà de la dimension purement, par exemple, l'hôpital public, qui est que on voit bien qu'on est partagé entre des activités dites essentielles et des activités inessentielles. C'est étonnant que, je vais être un peu, voilà, c'est étonnant que le libéral soit agacé d'une situation dans laquelle, en gros, le capitalisme est à sa forme la plus achevée. On produit, on consomme, on va à la maison et on regarde le CNews, voilà. Parce que tout le reste est à peu près quasiment interdit. Voilà. C'est pas pour décharger l'équipe quand même de pieds nickelés que nous avons à certains postes clés, mais c'est pour essayer, me semble-t-il, quand on parle de la question de l'épidémie, de la pandémie, me semble-t-il, d'aller un peu plus loin que le fait de dire ce sont des incompétents. C'est vrai, d'abord ce sont des incompétents que nous avons nous-mêmes mis au pouvoir, et je ne suis quand même pas sûr qu'à l'État aujourd'hui, grand monde serait en capacité de faire infiniment mieux que je vais peut-être surprendre, infiniment mieux que ce que fait le gouvernement à l'heure actuelle, qui fait ce qu'il a fait depuis le début, de la communication, du louvoiement, de la préparation des prochaines élections et par ailleurs du sécuritaire à tout craint. Voilà. Rien d'étonnant, sauf que là, maintenant, c'est très très lourd parce que, comment dire, ça tombe. Hein. Je veux dire, dans le contexte, ça ne pardonne pas parce que ça fait des morts, ça fait des gens qui souffrent. Et c'est la partie émergée de l'iceberg, on en parlera peut-être, des gens qui souffrent à tout niveau, pas uniquement dans les hôpitaux, mais chez eux, qui n'arrivent plus à vivre correctement, y compris matériellement ou dans leur tête. Voilà ce que je veux, juste une première réaction.
Léonore, réaction à ce que vient de dire Jean-François et à ce que je vous ai, au texte que je vous ai lu en liminaire.
Alors, merci Jacques. Et en fait, la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est pour poser énormément de questions. Tout d'abord, par rapport à la situation sociale dans laquelle on est confronté. On voit également que on parle aujourd'hui sur les vaccinations et ça s'élève partout dans le monde. Il est vrai qu'aujourd'hui, le discours, c'est savoir comment gérer cette stratégie des vaccinations pour faire le plus rapidement possible, en tenant compte que les effets secondaires, on ne sait pas encore où on va. C'est incertain, on répète tout le temps, c'est incertain. Et concernant les confinements, concernant les vaccins, est-ce que on pose la question, il va y avoir un troisième confinement? Et est-ce qu'il est nécessaire? Comment le gouvernement il va faire pour éviter de fermer les écoles? Comment le gouvernement va faire aussi pour gérer cette stratégie de vaccination, en sachant que les chiffres augmentent de plus en plus? Est-ce qu'on va suivre le chemin du Royaume-Uni? Est-ce que le couvre-feu il est suffisant en disant on change l'heure maintenant à 18 heures? Est-ce qu'on continue à 20 heures? Comment on fait face à toutes ces sortes de questions que les gens se posent en même temps au niveau économique, mais c'est surtout la santé qui compte en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, mais beaucoup de gens aussi qui sont face à une épidémie, une épidémie qui touche au niveau de la santé, mais c'est aussi social. Donc, je me pose des questions concernant les stratégies que le gouvernement va mettre en place. Ça va lentement? Est-ce qu'ils le font exprès d'aller lentement pour voir quel est le résultat du vaccin ailleurs? Mais il faut aussi penser à la façon comme les gens reçoivent l'information, parce qu'ils nous disent une chose, le gouvernement, mais après, il s'est fait une autre dans la réalité. Au niveau des écoles, il y a certains endroits qui sont fermés et des autres endroits qui ne le sont pas. Donc, c'est le moment de réfléchir à une vraie stratégie pour avoir des résultats, parce qu'on sent comme si on est amené dans un chemin, on est amené mais par la main, mais en même temps, on ne voit pas le résultat, on est vraiment en retard au niveau des vaccins. Donc, mettre en place une stratégie qui va fonctionner, mais le plus rapidement possible pour faire face à un problème d'épidémie, un problème dans lequel les gens se trouvent aujourd'hui malades, et que sont empêchés, et ça les empêche de travailler, de faire leur vie courante. Donc, il faut voir aussi au niveau, écouter le conseil scientifique, et quel est le choix que le gouvernement va faire par rapport à un conseil scientifique, parce que je sens parfois qu'on n'écoute pas ce conseil scientifique des gens qui nous amènent vers un chemin plus sûr. On ne sait pas si c'est plus sûr, mais au moins qu'il soit le plus efficace. Donc, revenir à la vie d'avant, je ne sais pas si ça va se faire de suite ou dans quelques mois. Mais en tout cas, que la stratégie soit mise en place de la façon la plus sécurisée pour les gens, en fait, et pour éviter la transmission de ce virus.
Pierre Larouille.
Oui, je pense que ça... On ne va pas réciter des souhaits inutiles. Moi, je partage assez la position de Jean-François. Je trouve que Nicolas Bavre est un peu caricatural. Je pense qu'il faut nuancer effectivement l'attaque contre le gouvernement. Je ne crois pas que l'action gouvernementale au sens large soit mauvaise sur tout. Il y a un point qui est structurel et qui est répétitif, c'est le problème de l'anticipation. En réalité, ce n'est pas tellement que ce qui est mis en place soit bon ou mauvais, c'est que c'est toujours mis en place en décalage. Ça, c'est un premier point. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, poser le problème de la vaccination, je ne suis même pas sûr que ça soit un vrai sujet, parce que maintenant, la machine est partie. Mais effectivement, on a laissé des gens constater un écart pendant 15 jours, 3 semaines, qui, je le rappelle quand même, normalement, si on fait une progression mathématique, se traduisent par des morts à la sortie. 3 semaines de décalage, et 3 semaines où il y a des gens qui meurent qui ne l'auraient pas dû. Donc, en principe, si le vaccin fonctionne. Donc, il y a un vrai problème d'anticipation, et c'est un problème structurel de ce pays. Deuxième problème, et Jean-François, à juste titre, et l'honneur ensuite, l'ont évoqué, c'est le problème de l'information et de la communication. Je crois que depuis 3 quinquennats, on n'arrête pas de dire que la communication a pris une place centrale. Moi, en tant que petit communicant politique, je crois très exactement l'inverse. Je crois qu'il y a une faillite totale de la communication politique depuis 3 mandats. Nicolas Sarkozy, qui était sans doute plutôt madré là, lui-même s'est mis dans des seringues de communication avec son storytelling assez douloureuse. Je ne parlerai pas de François Hollande, qui n'a pas été servi par Gaspard Ganzer, dont on voit aujourd'hui d'ailleurs les errements publics. Et je crois que Macron, qui est passé pour un grand communicant, en réalité ne cesse de s'écrouler en termes de communication. Il a à peu près tout faux depuis l'affaire Benalla, mais je dirais qu'il a tout faux depuis que la pyramide s'est couchée. Il a cru qu'il suffisait d'être élu, d'être en haut de la pyramide et de faire son message aux Français quand il a été élu pour que le côté jupitérien fonctionne. Tout ça ne marche pas, mais pose un problème plus large en réalité, qui est le problème de la relation avec les citoyens. Est-ce que cette société surcommunicante est encore capable de laisser une langue qui permet effectivement une écoute et un message? On voit aujourd'hui que tout concourt à empêcher ça. La communication dont vous parlez, comme l'information, passe par des réseaux sociaux qui ne fonctionnent que sur la dénonciation et la querelle, et jamais sur quelque chose qui viendrait construire. Donc il y a un vrai problème, effectivement, de l'écart de plus en plus prononcé entre l'information et la communication. En fait, je crois que le sujet, et je vais être paradoxal, mais ça fera peut-être plaisir à Jean-François, je crois qu'on a besoin d'un retour à l'idéologie. Parce que je crois qu'il faudra, un jour ou l'autre, reposer la question de la possibilité d'un discours politique. Il n'y en a pas actuellement. Il y a simplement des coups de barre à droite et à gauche avec des techniques. Et vous le voyez depuis, je vais finir là-dessus parce que je suis très long. Ce qui m'a le plus marqué, je l'ai sans doute déjà dit, mais je vais le redire, Macron a été élu par des méthodes algorithmiques copiées des Américains. Il a fait, vous vous souvenez, la grande marche où il est allé à la rencontre des Français pour tout savoir. Et en fait, au bout d'un an, les Gilets jaunes sont venus lui rappeler qu'ils n'avaient rien entendu, rien vu, et il a fallu faire le grand débat pour en savoir un peu plus. Le grand débat dont, vous le savez, nous l'avons d'ailleurs toujours pas les attendus de manière publique. Voilà, donc je pense qu'il ne s'agit pas de caricaturer la critique au gouvernement. Je crois en revanche qu'il y a un problème systématique d'anticipation. Troisièmement, il y a un véritable problème de discours politique.
Est-ce que c'est caricaturer l'action du gouvernement que de dire qu'on n'a rien prévu pour vacciner les gens? On savait qu'il y aurait un jour un vaccin, ce n'est pas une nouveauté. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir en novembre, en décembre, une stratégie vaccinale efficace, des moyens d'intendance complets? Comment se fait-il qu'on n'ait jamais pensé à ce genre de choses? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a recours à des cabinets de consultants américain McKinsey, pour ne pas le nommer, que nous payons un grand fond d'argent, alors que nous avons l'ENA, dont on se gargarise, des hauts fonctionnaires qui sont des gens, reconnaissons-le pour la plupart, tout à fait compétents, que nous avons même des militaires et une médecine militaire assez efficace. On avait parfaitement les moyens de mettre en place une vaccination à bonne allure. Alors, vous êtes, moi, je vous trouve très gentil en disant… Non. Bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas anticipé.
Jacques Lavergne, vous êtes en train de définir le périmètre de ce qu'on appelle un État.
Oui.
C'est-à-dire que quelque chose qui anticipe au service du bien commun,
les gouvernements,
de l'intérêt général, et avec des gens qui, à partir de là, sont en capacité de décliner des orientations qui sont prises sur ces considérations-là. Autrement dit, c'est pas failli. Enfin, encore une fois, j'ai aucune sympathie pour la bande de Charlot qui sont aux manettes, qui décident un certain nombre de choses et qui sont en plus des gens qui n'ont, de mon point de vue, aucune vertébrale, ni politique, ni éthique, tellement ils vont à la soupe les uns et les autres et qui sont en train de nous rejouer en ce moment, alors qu'il y a des gens qui meurent, le même numéro parce qu'il y a des élections qui s'approchent. Voilà. Mais donc, soyons clairs là-dessus. Ou du moins, j'essaye d'être clair là-dessus. Mais comment voulez-vous qu'on s'appuie sur quelque chose comme ça alors que structurellement et idéologiquement, c'est ça qu'on est en train de démanteler depuis effectivement des années, pour des raisons qui sont des raisons sur lesquelles on peut revenir. Enfin, je veux dire, moi, j'ai longuement pratiqué les pays de l'Est de l'époque du socialisme réel. Je ne suis pas un fou furieux de l'État et du centralisme démocratique et tout ça. Ce n'est pas ça la question. Mais ce que vous êtes en train de dire, pourquoi il n'y a pas eu ça? Il y a eu effectivement, certainement, la bande de pieds nickelés, encore une fois, que nous avons aux affaires en ce moment. Mais ce à quoi on touche, c'est effectivement à cette difficulté-là, ce qui est compliqué aujourd'hui. C'est, je veux dire, c'est plus facile. On a ces choses-là en Chine. Je vais caricaturer. Hein, là, on n'a pas. Alors, on peut voir des charlots. Les bureaucrates peuvent très bien être des charlots. Hein, mais on a du répondant, on a de la décision qui se prend, etc., etc. Voilà. Mais parce qu'on a, un État entre guillemets capitaliste. Hein, alors, il faudrait revenir un peu sur le concept mou, ce à quoi on touche, c'est effectivement, on fait. Alors, il n'y a pas d'anticipation. Je vais essayer de ne pas être trop long par rapport à ce que dit Pierre Larrouille. Il n'y a pas d'anticipation parce qu'il me semble par ailleurs que ce que le gouvernement paye aujourd'hui, c'est le très peu d'assises, la faible, paradoxalement à ce qu'on raconte d'habitude, à la très faible assise politique de confiance politique sur laquelle le président de la République a été élu. Il a été élu par défaut. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un qui a été élu par défaut, au bout de stratégies qui sont des stratégies, ça a été évoqué, à la fois à base d'algorithmes et de recettes. Alors, on ne va pas appeler ça la communication, mais alors, je ne sais pas comment il faut qu'on l'appelle. Il faudrait qu'on se prenne un temps pour se donner les définitions, certainement. Mais du moins, par des stratégies comme ça, à la sortie, c'est difficile par ailleurs d'anticiper, parce que par ailleurs, on a une palpeur, j'ai envie de dire, là aussi idéologique, avec les gens qui nous ont élus. Aujourd'hui, les gens qui sont dans l'État, quelle est leur capacité d'anticiper par rapport à la manière dont les gens le perçoivent? On le voit bien au niveau du vaccin. On le voit bien au niveau du vaccin où il y a du décalage sur la vaccination parce qu'on a un État et on a des élus, alors on a des fonctionnaires, mais en face, on a des gens qui sont des politiques qui sont dans l'incapacité d'identifier et de traiter la question de la confiance par rapport à une mesure qui est une mesure de politique publique. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ils sont décollés de la manière dont les gens sont en capacité de s'approprier ou de comprendre cette politique publique-là. Et dernier élément, après, j'essaierai d'être plus court. Et par ailleurs, à une époque dans laquelle il faudrait que les gens, entre guillemets, se serrent les coudes et fassent preuve d'une solidarité qui est une solidarité collective, eh bien, rien, parce qu'effectivement, ce n'est pas avec des premiers de cordée, et l'idéologie des premiers de cordée, et l'idéologie de la réussite individuelle, ce ne sera pas avec l'unité de la nation qu'on fabriquera une dynamique collective qui va faire effectivement qu'on puisse, d'une certaine manière, aussi anticiper sur le problème qu'on rencontre. Voilà.
Léonore ? Je ne sais pas si Léonore nous entend. Vous avez...
Je vais peut-être en attendant qu'elle revienne. Ah, pardon, Léonore.
Je suis là.
Allez-y, Léonore.
Je suis là, oui, je suis là. Non, je rejoins tout à fait la pensée de Jean-François. En fait, c'est comment, de quelle manière on met en place le vaccin, et en dehors du vaccin, parce que c'est toute une organisation aussi pour les entreprises, pour les gens qui travaillent. Où nous amène, est-ce qu'ils vont nous demander plus tard un certificat de vaccin? Est-ce qu'on aura la liberté de choisir? Je me pose aussi la question. Le fait de dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec ce vaccin, est-ce qu'il y a des autres options? Donc, voilà, donc c'est sur ça. Mais je rejoins tout à fait la pensée de Jean-François.
Pierre Larrouille.
Mais moi, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que peut-être que ce que je n'ai pas fait, c'est faire le lien entre les deux choses. Entre l'anticipation et la communication. Pourquoi, en réalité, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est que, visiblement, ces gouvernements, je dis bien ces, puisque je considère que ça fait un petit moment que ça dure, sont sans arrêt assis sur des références chiffrées de sondages quantitatifs faits à l'appel, de manière industrielle, et qui ne vont pas dans l'épiderme des gens. Je vais prendre un exemple décalé. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un an ou 18 mois. Prenez l'exemple des retraites. Comment on a approché le problème des retraites? On l'a approché par « il faut leur dire qu'ils ne vont pas y perdre ». On a fait un débat technique extraordinaire. Le résultat, c'est qu'à la fin, on a quasiment retiré le texte, même si on cherche à le ramener aujourd'hui. Si les communicants de l'ancien temps avaient bien voulu dire à ces brillants mormons, puisqu'ils s'appellent comme ça l'équipe de Macron, que peut-être que la peur du futur et la perte de confiance étaient plus importantes que l'explication chiffrée, il s'y serait pris autrement en communication. Encore faut-il, pour anticiper ça, arriver à partir d'analyses qui ne partent pas de quelque chose de très managérial. Je crois que, y compris, d'ailleurs, je suis étonné qu'ils utilisent ce terme, parce que, y compris dans une entreprise, il faut quand même de temps en temps anticiper sur le marché, sur les nouvelles attentes, etc. Donc, il y a un véritable problème. Le problème de la vaccination n'est en fait que la suite logique de tout ce qu'on connaît depuis quelque temps. Si vous rajoutez à ça que vous vous souvenez que la carte produite par Fourquet, qui de ce point de vue est intéressante, montrant que les bassins de forte implication des gilets jaunes correspondaient exactement au bassin de rejet du vaccin, c'est assez significatif. Vous vous souvenez que dans votre émission, Jacques Laverne, j'ai dit plusieurs fois au travers de mon article il y a 2 ans et demi sur le compteur Linky, qu'il y avait aussi une résistance très forte à la technologie. Tout ça fait qu'effectivement, on rejoint ce que dit Jean-François, il y a une crise totale de confiance, qui est une crise du politique, qui est une crise de l'idéologie, et que dès lors, tout ce que l'on fait en communication est en fait assis sur des analyses trop artificielles, trop factuelles, et que donc il ne peut pas y avoir d'anticipation. Et à la fin, pour répondre à Léonore, c'est que on va se poser plein de questions sur le vaccin. Pourquoi j'ai essayé de dédouaner le gouvernement? C'est que, en dehors de l'aspect des 3 semaines ou 1 mois perdu, ce qui est catastrophique, hein, je ne reviens pas là-dessus, mais aujourd'hui, on pourrait dire que le rythme de croisière a été pris. Donc, ce n'est pas tellement qu'on ne sache pas mettre en place un système de vaccination, même s'il n'est pas parfait. C'est encore une fois, Jacques, vous avez raison, pourquoi on ne l'a pas fait il y a 2-3 mois? Ça, effectivement, on savait très bien que ça allait se produire et on peut se poser la question, pas seulement depuis 2-3 mois, parce qu'on savait qu'un jour ou l'autre, il y aura un vaccin.
Question qui fâche, on sait qu'on pourra éventuellement se sortir de cette ornière grâce au vaccin, parce qu'un vaccin, ça fonctionne. Est-ce que, à votre sens, on aurait dû, le pouvoir, le président, aurait dû rendre ce vaccin obligatoire? Pierre Larouille.
Moi, je suis pas du tout persuadé. D'abord, pour une raison simple, c'est que je crois que pour le coup, il y a un tableau Excel. Il y a trop d'incertitudes sur ce qu'on raconte sur le vaccin pour qu'on puisse le rendre obligatoire. On ne peut pas dire, ah ben on ne sait pas, bon, ok, vous ne serez pas très malade, mais par contre, on ne sait pas si vous n'allez pas contaminer ou continuer à contaminer. Mais contaminer un peu plus faiblement, etc., etc. On va le refaire dans 8 mois ou peut-être dans 6 mois. Bref, je crois que certains peuvent faire un pari pascalien de dire, tant qu'à faire, je fais le pari du vaccin parce que c'est quand même à peu près la seule chose que j'ai en face de moi. Mais par ailleurs, le rendre obligatoire nécessiterait, pour le coup, d'avoir énormément de précision et de certitude plus grande sur l'efficacité. Et dernier point, puisqu'on en vient toujours là, alors là, pour le coup, je suis complètement hostile à l'idée qu'on pourrait priver des citoyens d'accès sous prétexte qu'ils ne seraient pas vaccinés, pour la raison d'ailleurs précédente. Et vous imaginez en plus, avec le décalage dans le temps, ça serait quand même extraordinaire. Ça voudrait dire que ceux qui rouvrent ne seraient occupés que par des seniors, puisque les jeunes seraient vaccinés en dernier. Donc tout ça me paraît un peu ubuesque. Encore une fois, commençons par avoir des précisions sur le vaccin, et après on verra jusqu'où on peut aller dans obligatoire ou progressivement obligatoire.
Qu'est-ce que vous appelez précision sur le vaccin, Pierre?
Je viens de vous donner au moins 3 choses. C'est premièrement, est-ce qu'on continue à contaminer une fois qu'on est vacciné? Deuxièmement, est-ce qu'il faudra de nouveau le faire au bout de 8 mois? Troisièmement, quelle sécurité par rapport aux mutations que l'on voit du vaccin en permanence? Bref, pour l'instant, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du pari, qui n'est pas forcément un pari de risque, je suis moins sévère que Léonore là-dessus. Peut-être, je crois, que le truc est plus simple qu'on ne le croit, mais en revanche, il y a trop d'incertitudes sur son efficacité.
Oui, il y a peut-être des incertitudes sur son efficacité, ça n'empêche pas qu'il le soit efficace. La question, c'est de savoir jusqu'où il va l'être, mais il l'est.
C'est ça.
Donc, si les gens étaient déjà vaccinés, on pourrait se poser après la question de savoir jusqu'où cette immunité va durer. Mais ça n'empêche pas qu'on repousse le vaccin au motif de dire, bon, on ne sait pas jusqu'à quand il va nous permettre d'être protégé, de protéger les autres.
Oui, on dit la même chose. Oui,
Jean-François.
Oui, oui, non, une stratégie de vaccination, c'est toujours un pari. Il y a toujours des risques dedans. On aurait quelques problèmes constitutionnels quand même, au passage, peut-être, sur des niveaux d'obligation comme ça.
Ça s'est déjà fait pour notre vaccin. À nos époques, vu nos âges, j'excepte Léonore, mais nous avons reçu des vaccins parce que c'est obligatoire.
Et on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour la fréquentation de collectivités, mais je veux dire, là-dessus, ça s'est beaucoup allégé. Je ne suis pas du tout sûr. Alors, je partage complètement d'une part ce que dit Pierre, effectivement, sur le risque qui est un risque y compris. Alors bon, ce n'est pas n'importe quel vaccin au passage, puisque là, on a des vaccins de plusieurs générations, de plusieurs types, plusieurs profils de vaccins. Donc certains, on n'a pas non plus jusqu'à présent, on avait des problèmes classiques de vaccination. Alors, je ne suis pas technicien, mais je me suis un peu intéressé à la question. Qui était en gros de dire, est-ce que ce n'est pas plus contre-productif par rapport à la personne qui est la personne vaccinée de le vacciner parce que le vaccin fait comporter un risque. On peut choper la variole avec le vaccin de la variole. On pouvait à une époque, très, très résiduellement, mais c'est grâce au vaccin de la variole qu'on a éradiqué quasiment la variole dans le monde. Donc voilà, c'était. Là, aujourd'hui, on a quand même des vaccins qui sont constitués sur des bases et qui font que les effets ne sont pas uniquement sur la personne qui est vaccinée, mais éventuellement sur l'ensemble de la population, parce que les techniques de manipulation génétique nous amènent. Ou avantage, c'est ça le problème du vaccin, c'est-à-dire quel est l'avantage. Voilà. Deuxième élément. Moi, je pense que l'obligation et en règle générale la faillite effectivement de quelque chose de l'ordre d'un minimum social et produit des effets délétères, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ça va devenir très compliqué de les gérer quand même. Je vois pas comment, sauf à le faire à la chinoise, on vaccine de manière obligatoire sans avoir quelque chose de l'ordre d'un travail qui est un travail de pédagogie de ce point de vue-là. Et troisième chose, mais ça, moi, j'aimerais qu'on... Enfin, je n'ai pas les éléments là-dessus, mais j'aimerais qu'on en discute. C'est on attend le vaccin comme étant quelque chose de l'ordre de la solution au problème. Moi, je ne suis pas sûr. Au regard du contexte évolutif ou des choses comme ça, ça peut éventuellement, effectivement, et certainement que ça règle un certain nombre. Alors, pour le dire trivialement et vite, moi je pense qu'à un moment donné ou un autre, individuellement, je serai amené confronté à cette question-là et je me ferai vacciner. Je ne suis pas du tout un anti-vaccin. Mais ce que je pense, c'est que la manière dont on le fait est une manière qui est dangereuse au niveau de l'épidémie, et qui est politiquement très douteuse si on commence à obliger à faire ce genre de choses-là. Je pense que c'est fait. Jacques Lavergne, Jean-François Mignard, Pierre Larouille, tous les trois, on est d'une génération dans laquelle la transmission le primait sur la négociation, comme disaient les sociologues, où effectivement, on s'acquittait de certaines choses parce qu'on considérait que c'était normal, que c'était transmis, c'était comme ça. Je crois qu'on est passé à autre chose et qu'il va falloir faire aussi avec la réalité sociale à laquelle on est. On peut pas imposer en 2020 les choses comme on pouvait les imposer il y a 250 ans, sauf à ce que ça coûte très cher politiquement ou socialement.
Léonore, sur cette question du caractère obligatoire ou pas du vaccin.
J'ai mes questions et je pense que à la longue ça peut être obligatoire parce qu'ils vont jouer sur la carte de je me protège mais également je dois faire attention à l'autre et le travail oui parce que on s'est dit oui je décide de pas me vacciner et voilà c'est ma décision, c'est ma liberté, j'ai le droit, mais également j'ai le droit aussi de protéger la vie des autres personnes parce que tout le monde n'a pas le même système immunitaire. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que de plus en plus, le droit de la loi à la liberté elle va être questionnée, hein, parce qu'au moment, moment d'aller travailler, peut-être qu'ils vont nous demander un papier comme quoi on est vacciné pour pouvoir aller au bureau. Donc, je me pose des questions et je pense que ça peut devenir obligatoire.
Alors, autre question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir si Macron, aujourd'hui, qui on le sent, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, on sent qu'il a envie maintenant de parler autre chose, mais chaque fois qu'il a envie de reparler d'autre chose, c'est-à-dire des réformes qu'il voulait mettre en place, et notamment celle des retraites, il est rattrapé par les soubresauts du virus ou de la pandémie. Est-ce que vous pensez qu'il va remettre sur le métier ces fameuses réformes et qu'il en aura politiquement et le temps et la capacité? Pierre Larouille.
Oui, mais alors ça, c'est dans la droite ligne de ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il veut parler d'autre chose, mais il veut parler de lui, de ce qu'il faisait déjà. Hein, de l'endroit où les oreilles sont ouvertes. Il y a quand même un grand absent dans tout ça. C'est l'objectif, c'est la vision. On dépense des dizaines, des centaines de milliards, on n'a toujours pas de vision. On en est à reposer le problème des retraites, alors peut-être qu'il se reposera. Mais aujourd'hui, je crois quand même que les Français ont besoin d'avoir une espérance. Et nous retournons encore une fois à ces questions de « il n'y a pas de langue politique, il n'y a pas d'idéologie ». Et du coup, ces mesures, qui étaient en plus déjà dans le langage précédent, apparaissent complètement décalées, j'allais dire frelatées, parce qu'elles ne correspondent absolument pas au contexte tel que le perçoivent les gens. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas qu'est-ce qui sera remboursé, pas remboursé, comment on va le faire, dans quel délai, est-ce qu'on va en profiter pour transformer le modèle productif français ou pas. Tout ça, nous n'avons aucune réponse. Et la seule chose que raconte le président de la République, c'est de dire que finalement, on a échoué sur le climat. Voilà.
Ce qui est vrai. Léonore Victoria.
Et alors, concernant les retraites, la retraite, c'est vrai que pendant le confinement, Macron il parle plus de la situation sanitaire que des retraites, mais ça n'empêche pas qu'on reçoit quelques informations. C'est vrai qu'au début de l'épidémie, en mars 2020, il souhaitait faire des réformes, Emmanuel Macron, concernant le système universel et le système de retraite, voilà, qui allait changer, qui allait être calculé par points, par des points. Donc, il a décidé de stopper ça pour un moment, mais je crois que ça va revenir d'ici à quelques mois et qu'ils vont faire des changements, mais pour le moment, c'est un stand-by, c'est en attente, parce que la priorité aujourd'hui, c'est faire face à l'épidémie, mais ça n'empêche pas que le gouvernement nous donne quelques pistes, hein, et changer aussi la date et rentrer en vigueur des retraites, et aussi l'âge. Donc, l'âge de départ, normalement, il est fixé à 62 ans, mais l'idée, c'est de la prolonger et faire que les gens partent plus tard. Au niveau d'un système qui est par points, ça veut dire que tout le monde n'aura pas le même droit, parce que tout le monde ne cotise pas de la même façon. Et c'est un sujet assez délicat, parce que le calcul des pensions, ça va complètement changer. Ça, justement, la réforme qu'ils souhaitent faire, c'est changer aussi les calculs des pensions. Les gens vont recevoir moins d'argent. Et c'est limite pour certaines personnes qui sont à la retraite. C'est limite pour eux. Donc, il faut voir aussi si vraiment ce système qu'ils souhaitent mettre en place, ça va être efficace et ça va être quelque chose qui va servir vraiment pour le bien-être des gens. Parce qu'on sait très bien que la plupart des gens qui sont retraités n'ont pas un bon salaire, une bonne retraite. Ils ont du mal à finir le mois. Donc, ces modifications, ça peut enchaîner aussi des problèmes en parallèle. Donc, on verra la suite par rapport à la retraite. C'est vrai qu'à ce moment, le gouvernement ne parle pas beaucoup. C'est plus la communication est dirigée vers le vaccin et vers, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'épidémie.
Jean-François, pour clôturer cette question.
Oui, donc je vais essayer de faire rapidement. Je vais partager un sentiment entre l'exaspération et la déprime. Hein, c'est-à-dire que on ne voit que le bout de ce qui commence à nous arriver, parce que économiquement parlant, par exemple, à la sortie, il va y avoir une casse absolument épouvantable. On commence à la voir apparaître localement. Enfin, à Toulouse, on est particulièrement bien placé pour se dire que ça va faire très très mal à la sortie. Je suis un peu exaspéré, un peu déprimé sur le fait que nous voilà repartis pour faire de la politique au lieu de faire du politique. C'est facile comme hein, mais nous voilà repartis. Alors Macron comme les autres, hein, Macron comme les autres de ce point de vue-là, nous voilà repartis pour utiliser toutes les ficelles depuis, y compris. On va avoir droit. Visiblement, c'est reparti pour tout. Et ce que je crains par ailleurs, c'est que comme les choses vont se tendre, hein, parce que, encore une fois, je veux dire, comme disait ma grand-mère, ce qui nous court après ne nous a pas encore attrapés, je crains qu'en plus, l'équipe en place nous fasse le numéro qui est le numéro de la cohésion sociale, de la fermeture et de l'autorité qui fasse que. Et du bouc émissaire. Voilà. Je crains ça. C'est-à-dire qu'on va avoir droit du gros bleu qui tâche dans les semaines et les mois qui viennent. Et que par ailleurs, l'averse va être rude du côté du monde réel, à côté du monde politique qui ne va que surfer là-dessus de la pire des façons. Voilà. Macron, bien sûr, parce que c'est le pur produit de ça, comme les autres.
Bien, je vous propose de passer au sujet numéro 2 qui était l'Europe après le Brexit. Donc, le 1er janvier, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne après 47 ans de vie commune agitée, on va dire. Vous savez que dans cet accord, rien ne concerne la défense, la politique étrangère ou la coopération multilatérale. Donc, il y a encore beaucoup de choses à construire. Et ce Brexit, manifestement, va acter un basculement de l'Europe, basculement géographique de l'Europe vers l'Est aujourd'hui. Nous avons été mis par un peu sous l'égide de Mme Merkel entre les mains de M. Erdogan en 2015 lorsque des centaines de milliers de demandeurs d'asile sont arrivés. Donc l'Europe, là aussi, a se posé la question de l'immigration et la solution qu'elle a adoptée ne lui permet plus aujourd'hui, parce qu'on est tenu par M. Erdogan, de critiquer son expansionnisme au Proche-Orient, en Méditerranée orientale ou dans le Caucase face à la Russie. Donc il va falloir certainement réformer la gestion de l'asile et de la migration au sein de l'Union européenne. L'après-Covid fait que rien ne sera plus comme avant, donc il faudra là aussi imaginer certainement un nouveau pacte de stabilité et un projet qui stimule la croissance. Donc il va falloir investir, relancer, sachant que nous ne réduirons pas nos dettes massivement et d'un coup. Donc il va falloir éviter d'un côté le laxisme budgétaire, mais il faudra aussi regarder la réalité en face et puis regarder quelles sont les préoccupations des citoyens, la lutte contre le changement climatique, la maîtrise des flux migratoires, j'en ai parlé, la lutte contre le terrorisme et puis aussi la souveraineté technologique. Vous savez que nous avons conclu sous l'égide de Mme Merkel un pacte avec la Chine qui est déjà un peu écorné avant même que d'avoir démarré. Et puis il y aura un événement majeur qui va se produire dans quelques mois, c'est le départ de Mme Merkel. Que se passera-t-il après? On ne voit pas trop ce qui va se passer en Allemagne. Qu'en sera-t-il du couple franco-allemand? Sur cette question, Pierre Larouille?
Oui, je trouve que c'est assez difficile parce que c'est très frais, pour le coup. Enfin, on ne sait pas grand-chose de ce qui va se passer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est observé de plein de manières. Jacques, vous avez souligné effectivement un déplacement géostratégique, on verra. Il y a un deuxième problème qui est malgré tout la montée et la remontée du débat sur le souverainisme. Et de ce point de vue, que l'on pose la question du Brexit ou précédemment celui du vaccin, vous voyez bien que ce thème, comme celui de l'identité, se remet au cœur du jeu politique, en tout cas en France. Alors, d'une certaine manière, on va avoir un cas d'usage avec le Brexit, mais vous voyez aussi que ce climat génère quand même toutes les illusions. Ça va de l'État, jusque d'ailleurs aux collectivités locales, avec toutes les idées de relocalisation d'un côté, versus, vous voyez monter du côté des Républicains, de M. Retailleau ou de gens comme ça, des positions extrêmement dures politiquement, justement, sur l'immigration et sur l'identité. Et tout ça, donc, est en train de préparer, et je ne sais pas en quoi et comment le Brexit anglais va nous éclairer, mais en tout cas, ça réexcite très profondément des débats qui me paraissent extrêmement dangereux et qui feront surtout le lien, et je finis là-dessus, avec le troisième sujet que vous voulez aborder, c'est que je pense que, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, je pense que Trump a gagné son coup d'État, mais que c'est un coup d'État virtuel et qu'on va mettre très durablement, on va avoir beaucoup de mal à se débarrasser de ce qui vient de se passer et du clivage qui vient de se construire sur les visions modernes de la société qui ne fait plus de la démocratie une évidence.
Léonore, sur cette question.
Alors, concernant la souveraineté, le Brexit, c'est vrai que là, le Brexit amène à un état de questions parce que c'est nouveau aussi, hein, c'est revenir, faire marche arrière, quitter l'Union européenne pour faire leur propre système hein, à eux. Hein. Donc, il faut voir la souveraineté de la classe politique britannique hein, parce que l'idée de quitter l'Union européenne, dans la possibilité de s'en sortir avec le moins de problèmes possible. On parle d'une intégration économique et on commence à voir les résultats de cette décision. Avec le Brexit, on voit aujourd'hui qu'on perd de territoire hein, au niveau économique, au niveau social aussi, parce qu'il y a des gens qui vont devoir changer leur façon de vivre. Et nous, ici, on ne voit pas, on ne sent pas trop, hein, mais je parle pour les gens qui sont à la frontière avec l'Angleterre. Ils le vivent plus concrètement. On voit aussi, depuis hier ou avant-hier, qui est sortie la nouvelle de problèmes de sandwichs. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. La drôle d'histoire avec les sandwichs, hein, parce que les nouvelles règles sont rentrées en vigueur. Et au niveau avec le Pays-Bas, on voit aussi comment la manière de voir ces post-Brexit interdit certains produits laitiers de l'Union européenne. On voit aussi comment ça va changer au niveau aussi de la douane, le surcoût à la poste aussi, par rapport pour les gens qui travaillent entre l'Angleterre et la France. On va voir un coût supplémentaire, on commence à le voir. On voit aussi comment le rayon dans les supermarchés, ça va changer, pas pour nous, hein, c'est pour eux aussi. Donc, on voit petit à petit comment ce post-Brexit prend une forme qu'on attendait. Je ne sais pas si on l'attendait, mais on le voit plus clairement et que ça va affecter au niveau économique. Après, au niveau de voyage et tout ça, ça va continuer jusqu'à l'année prochaine. Mais on voit comment le Brexit prend une forme qu'on n'attendait pas. C'est au niveau économique. Les produits, les gens qui travaillent avec l'Angleterre, on commence à voir les marchandises qui commencent à se perdre, certains marchés qui commencent à diminuer. Donc, il faut réévaluer et voir comment les autres pays vont prendre une place, parce qu'on va dire que c'est une place claire qui est aujourd'hui à prendre, comment on peut négocier à nouveau et avec les meilleures conditions. Et on voit comment l'Irlande va prendre des échanges plus importants avec l'Union européenne, par exemple.
Merci, Léonore. Jean-François.
Oui, je n'ai pas grand-chose à... Oui, je vais aller assez vite parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Le départ des Anglais, je pense qu'ils sont... Malgré les accords économiques avec le Japon, ils n'ont pas fini entre l'Écosse et l'Irlande et l'Angleterre. Hein, voilà, déjà, il faut se dire ça. Mais ce qui va se passer, en Angleterre, en Grande-Bretagne, là, au Royaume-Uni, n'est pas indifférent de ce qui se passe, de la question qui se pose, effectivement, au niveau européen. Au-delà même de la dimension économique, sur quel modèle identitaire ou politique que les choses vont pouvoir évoluer. entre l'Union européenne qui est un marché et l'État-nation qui serait le lieu de l'identité, il y a toujours l'introuvable citoyenneté européenne qui fait qu'on aurait là quelque chose de l'ordre du sens qui pourrait faire qu'on arrive à s'en parler. Et alors, c'est évident que le contexte international, par ailleurs, est suffisamment compliqué. Voilà. C'est vraiment des débats à avoir par la suite.
Mais nous aurons certainement l'occasion d'y revenir tout au long de l'année 2021. Dernier sujet, les USA, les derniers jours de Trump, donc victoire nette de Biden, un refus obstiné et borné de Trump de reconnaître une défaite pourtant évidente et incontestable. Trump a fait du Trump, nous savions que cet homme n'était pas un homme d'État, qu'il avait abîmé son pays, voire le monde. Incompétence crasse, mensonges, fake news, violence dans les propos, attaques, complotisme, flatterie des plus bas instincts, qui nous a tout fait, négation de la réalité, action partisane, etc. On se demande
l'horreur.
Où pouvait aller.
Total.
Espérons que l'on a tout vu, il nous reste quelques jours pour le vérifier, mais n'oubliez pas non plus que M. Trump n'est pas arrivé là par hasard et que le glissement des Républicains date de plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est un aboutissement assez logique, finalement. M. Biden aura certainement beaucoup de travail pour apaiser l'Amérique, pour tenter de rapprocher des citoyens qui sont aujourd'hui extrêmement divisés. Mais c'est aussi une leçon pour nous autres Européens. Nous avons chez nous des Trump qui attendent en embuscade l'occasion d'accéder aux manettes du pouvoir. Donc, soyons vigilants. Pierre Larouille avait commencé à effleurer le sujet. Donc, on va lui rendre la parole pour qu'il achève l'expression de sa pensée.
Non, mais je crois qu'on a exactement le même problème qu'on a eu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire des chroniqueurs qui commentent quelque chose qu'ils croient comprendre. Et je vais vous dire, les Gilets jaunes, ils ne détestent pas les Black Blocs. Et une bonne partie des États-Unis ne déteste pas les violents qui ont attaqué le Congrès. Et je pense qu'il faut se méfier. Encore une fois, la démocratie n'est plus une évidence actuellement. Trump joue là-dessus. La violence qui monte est une réalité profonde et structurante. Et moi, je ne suis vraiment pas optimiste pour les temps à venir. Et j'écoutais hier soir une émission où les gens se gargarisaient parce que Trump avait visiblement mis du miel dans son thé. Je crois que c'est simplement se préparer au contraire à des affrontements sans doute violents. Il ne peut pas couvrir une seconde fois en amont. Donc tout le monde a compris en revanche qu'il en donnait la consigne.
Jean-François.
Je suis d'accord avec ça. Je suis moi assez pessimiste sur ce qui risque de se passer aux États-Unis. Alors, sur l'analyse, oui, bien sûr, Trump est un paillasse, mais c'est quelqu'un qui, je veux dire, des Trumpistes, il y a une quantité industrielle aux États-Unis. Ça représente du monde. C'est identifié et ça pèse, ça pèse à la fois en termes de réalité démographique et en termes de rapport au réel, j'ai envie de dire, de rapport au réel au sens de, effectivement, le rapport de force, c'est celui qui est le plus fort qui a raison. Et la deuxième des choses, c'est que la vérité n'existe pas, c'est celle que je pense. Mais on a ça. Faites un tour dans les réseaux sociaux en France, vous verrez que ce genre de rapports violents sociaux, on le pratique aussi chez nous, même si ça n'a pas envahi l'espace politique. Je ne sais pas trop comment effectivement les États-Unis vont pouvoir se sortir d'un truc comme ça. Les démocrates vont peut-être essayer d'éviter que Trump se représente le coup d'après avec le double impeachment, là, mais... On a droit à des commentaires complètement à géométrie variable là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le phénomène trumpiste est au-delà de ce que représente Trump, traverse les États-Unis. Et ça, c'est durable et ça traverse le monde, effectivement.
Léonore ?
Alors, on voit que les États-Unis, en ce moment, ils vivent une crise à tout niveau, politique, de communication, au niveau des systèmes de sécurité, sans compter le sanitaire, mais on a tout vu avec Trump. Et c'est vrai qu'avec l'impeachment envers Donald Trump, ils veulent éviter qu'il revienne dans le pouvoir. Mais en même temps, il y a plusieurs choses que je vois dans la situation de Trump. C'est-à-dire qu'au niveau de communication, il y a une espèce de diffusion de désinformation. Les gens sont informés en même temps. Ça accumule une force, une désinformation de la réalité. Parce que justement pour s'organiser, Trump il dit une chose et les gens ils vont comprendre autre, ils vont réagir avec violence. Donc on va dire qu'il a gagné les élections aussi grâce à une désinformation. Il a joué vers la communication et c'est ça qu'il a fait pendant tout son gouvernement. Il a utilisé les réseaux sociaux. Il a su comment gagner une partie du peuple américain à travers une espèce de rage, parce que c'est ça qu'il transmet, un discours qui est violent, un discours qui, au lieu d'unir les gens, ça va désunir et ça va pas permettre de construire un État. Au contraire, il est en train de dissoudre beaucoup dans la...
Ah, nous avons perdu Léonore. Oui, nous avons perdu Léonore. Ça, c'est les joies des émissions qui ne sont pas en présentiel, comme on l'a dit avec ce mot qui est horrible. Je vous propose, et l'heure ayant largement sonné, d'aborder nos trois dernières rubriques habituelles, à commencer par les brèves. Et puisque j'ai la parole, ben, je vais la conserver pour les brèves et vous donner une brève concernant les fameux Kurdes, brève que j'ai lue dans Le Canard Enchaîné, qui parle de ces martyrs de Syrie. Vous savez que le viol est une arme de guerre qui est utilisée, mm-hmm. notamment par les gens de Daesh et tous les djihadistes dans les zones de conflit. Lorsque les troupes turques, on revient à M. Erdogan, et qui est un personnage sulfureux pour le moins, pour ne pas dire autre chose, lorsqu'ils sont entrés dans le nord de la Syrie, dans la région kurde d'Afrin, en 2018, les supplétifs arabes d'Erdogan, eh bien, ils ont eu carte blanche, ce qui fait qu'ils se sont servis avec la complicité des Turcs et avec les tueurs de Daesh et du Front al-Nusra. Ils se sont servis, ils ont violé, capturé des femmes kurdes qu'ils ont... a priori, après les avoir martyrisés, comme ils avaient fait d'ailleurs pour les femmes yézidis, eh bien, ces criminels islamistes ont enlevé par centaines des jeunes femmes kurdes et puis les ont vendues comme esclaves sexuels en Libye, et entre autres par l'intermédiaire de marchands qataris. Donc voilà, je voulais attirer l'attention sur cela, puisqu'on ne parle aujourd'hui plus que de la pandémie. Nous sommes totalement nombrilistes et nous ne regardons plus aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, qui continue à vivre de façon violente et souvent totalement scandaleuse. Et je suis là aussi dans l'euphémisme. Donc pensons à ces femmes kurdes, pensons quand même que les Kurdes ont été nos alliés avant de se faire lâcher par les Américains, qui ont de toute façon toujours lâché leurs alliés, quels qu'ils soient. Jean-François. Une brève.
Oui, une brève. Juste dire que au tribunal de Paris, aujourd'hui, au tribunal administratif de Paris, un procès qui se déroule sur ce qu'on appelle l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est la question de la responsabilité de l'État, dans l'État justement de la lutte contre de la dégradation de la planète. Et c'est juste pointer que on peut être optimiste éventuellement sur au moins le fait que la justice pointe du doigt l'irresponsabilité et les fautes commises par l'État français concernant un avenir qui est un avenir que nous partageons et sur le et Pierre l'a évoqué tout à l'heure vis-à-vis duquel nous prenons un retard qui est un retard dramatique parce que comme disait l'autre, la planète brûle. Nous l'oublions pas.
Et nous regardons ailleurs. Léonore, une brève.
Vous m'entendez?
Oui, très oui. Bien.
Allez. Ah, okay, d'accord. Alors, il y a un groupe qui est très connu en France, parce qu'il est français, s'appelle Carrefour, racheté par un groupe québécois. Donc, ils sont en train de négocier. Donc, ils sont en train de voir d'exploiter de nouvelles opportunités pour ce groupe français qui peut devenir québécois. Dans quelques temps, ils exploitent énormément de supérettes dans le monde, surtout en Amérique du Nord et du Sud aussi, et bientôt sera peut-être québécois. Voilà, je voulais partager ça.
Pour l'instant, c'est débattu, c'est pas une OPA agressive, hein, puisqu'ils
amicale.
ne font que parler, comme l'on dit à la campagne.
Une OPA amicale, ça s'appelle. Ouais.
Voilà, une OPA amicale. Et ce matin, cause. J'ai entendu une des ministres du gouvernement, je ne retiens jamais leur nom parce qu'ils ne font que passer, une des ministres du gouvernement qui a dit qu'il était hors de question que le groupe Carrefour passe sous contrôle d'un pays étranger, même si c'est le Canada. Voilà, donc affaire à suivre. Pierre Larroux, une brève.
Une brève et un vœu, parce que en 2021, on dit ce plus brève, mais qu'on dise longue et qu'on commence à réfléchir, comme le dit Jean-François, sur le long terme et qu'on arrête de faire du factuel.
Allez, c'était un souhait. C'était un souhait.
Très bref.
Allez, un ça va mieux, avant-dernière rubrique. Alors moi, mon ça va mieux, c'est finalement, paradoxalement, l'envahissement du Capitole, même s'il a fait 5 morts, parce qu'on a véritablement vu qui était... si quelques-uns en doutaient, qui était le noyau dur des partisans de Trump, ce qu'il représentait. Mais surtout, ce qu'on a vu dans tout cela, c'est quand même la fermeté des institutions politiques et de la justice qui ont bien tenu, malgré les coups de boutoir de Trump, d'où l'importance de ces structures fortes qui permettent quand même de faire pièce au dérapage du politique. Et ça, je trouve que les États-Unis se sont quand même pas trop mal débrouillés dans cette tourmente. Il y a des structures qui ont bien tenu et qui ont maintenu le cap. Jean-François.
Oui, mais en écho français à ce qui vient d'être dit, le contre-pouvoir à l'exécutif, c'est important. La CNIL vient d'émettre un avis hier, dans la foulée d'ailleurs de celui qui a été émis par le Conseil d'État, concernant les surveillances par drone. Et notamment tout l'ensemble dans le cadre de la loi dite sécurité globale, dans lequel on aurait pu être surveillé par drone avec des systèmes qui sont des systèmes vidéo. Bon, la CNIL, alors combien de temps ça va durer? Le Conseil d'État de la CNIL s'oppose encore à ce genre de choses-là, ça va mieux, mais ça risque de ne pas aller trop bien si ça continue avec le fichage, avec la vidéosurveillance, etc., etc. Mais les contre-pouvoirs résistent encore un peu.
Espérons-le. Léonore.
Alors, pour ceux qui sont militants de l'écologie, ils ont décidé en Suède, je parlerai de Suède parce que je pense que ça va bientôt se faire en France, ils ont décidé pour préserver l'image de l'écologie et pour préserver aussi la nature et son message, ils ont décidé de prendre l'image de Greta Thunberg comme une image pour un timbre. Et donc, c'est un message aussi pour la nouvelle génération, pour que les gens puissent être actifs au niveau de l'écologie et faire connaître ce message des jeunes. Donc, c'est aussi pour réveiller l'état d'esprit des jeunes en disant, vous pouvez aussi le faire. Et c'est un message qui partage les militants écologiques qui sont très contents, donc pour eux. Et je pense que bientôt, ça sera en France. Avec les timbres.
Qu'est-ce qui va mieux pour Pierre Larrouille?
Je vais continuer dans le vœu. Je pense qu'une crise est toujours porteuse de dépassement et que là-dessus, la France peut retrouver une fierté à réouvrir sa gueule, comme on dirait.
Dernière rubrique, le conseil culturel. Alors, il ne sera pas ni théâtre ni cinéma, compte tenu de ce que vous savez. Je suis dans un gros livre. Je le montre
pour
le voir. Voilà, ce sont les mémoires, ou au moins le premier tome, puisqu'il paraît qu'il en a annoncé un deuxième, mais au tarif où on le paye, moi j'en ferais même trois si j'étais lui. Une terre promise, et je ne suis qu'au premier tiers. Hein, c'est un très gros livre qui fait 800 pages, mais qui est très intéressant parce que d'abord il permet de connaître un homme politique qui est peut-être un peu atypique, qui est venu de loin, qui n'était pas du tout sûr d'arriver là où il est allé. Ça permet de voir les États-Unis, l'Amérique profonde, si je puis dire. Ça permet aussi de voir une certaine conception de la politique, un système d'élection qui est assez alambiqué, très, très particulier, dont nous sommes très loin. Et moi, ça m'a fait comprendre, dans ces 200 premières pages que j'ai lues, ça m'a fait comprendre d'entrée pourquoi cet homme a été élu président de la République. Et pourquoi le nôtre sera toujours et à jamais un nain politique. Voilà, donc je vous recommande ce livre. Je le rappelle, Une terre promise, Barack Obama, et c'est chez Fayard. Voilà, Pierre Larrouille.
Pour rester dans ce qu'on s'est dit tout à l'heure, là, ce n'est pas un vœu, je vous suggère de lire un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Le marché de l'identité ». qui a été publié par l'Association lacanienne internationale et qui est un recueil d'articles assez remarquables, dont un de Jean-Pierre Lebrun, qui, je crois, mérite très pédagogique exactement, ça mérite la lecture vu l'actualité.
Léonore, un conseil culturel?
Alors, un conseil culturel en ce moment, c'est une série. C'est une série que peut-être il y a des gens qui vont aimer. C'est pas Bridgerton, c'est anglais. Et ça raconte l'histoire de... C'est une histoire d'amour, mais en même temps, je trouve intéressant la manière comme ils présentent la reine. Je ne vous raconterai pas plus parce qu'ils disent que c'est d'origine aussi africaine. Et je vous laisse découvrir cette série.
Rappelez-nous le titre que je n'ai pas bien entendu.
Bridgerton.
Ah ben avec l'accent, c'est différent, effectivement. Pierre Mignard.
C'est pas Jean Mignard, c'est Jean-François. Ah, oui,
je me mélange, mais
c'est le début 2021, c'est ça. Deux choses, juste un mot, un petit mot quand même pour les acteurs culturels, on va le dire comme ça, aujourd'hui extrêmement malmenés par un gouvernement qui les considère comme pratiquant des activités inessentielles. Ça, il faut quand même, je pense qu'il faut le dire, hein, les gens vont mal et c'est douteux la manière dont ça se passe. Mais pour prendre un peu plus de détente, alors c'est aussi un bouquet. Je suis vachement moins sérieux que vous. C'est une bande dessinée d'une série que j'ai toujours adorée, qui vient de sortir le dernier numéro, le numéro 6. Ça s'appelle Les Vieux Fourneaux. C'est fait par un auteur qui est un auteur toulousain qui s'appelle Lupano Caluet. Le titre de ce sixième tome des Vieux Fourneaux, ça s'appelle L'oreille bouchée. Alors, ce petit clin d'œil aux lecteurs d'Hergé et de Tintin, bien entendu. Et c'est une série qui raconte, qui devrait beaucoup parler à un certain nombre de mes amis présents dans l'émission. C'est toute une génération, les Vieux Fourneaux. C'est les vieux 68 ans. C'est rempli de clins d'œil. C'est plein de malice, c'est très ouvert sur la question de la jeunesse d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est un bon moment dans une période un peu noire. Lisez Les Vieux Fourneaux, L'oreille bouchée. Ça vous fera passer un bon moment. Et si vous êtes de nos âges, passez l'année plus jeune, c'est intéressant pour en discuter.
Merci Jean-François. Alors une annonce, eh bien le cap de lundi prochain se fera avec les représentants et le chairman du Parti démocrate en Occitanie. Donc on avait déjà envisagé il y a quelques mois, on avait parlé de cette élection, mais on ne savait pas où on allait. Eh bien là, nous allons faire lundi un peu la synthèse et le point de ce qui s'est passé durant cette élection. Et nous parlerons bien évidemment des sujets que nous avons abordés tout à l'heure, l'avenir des États-Unis, l'avenir de M. Biden, ce qu'il pourra faire ou ne pourra pas faire. Merci à tous les trois. C'était une émission de Jacques Lavergne. Ça va mieux, bien sûr. Nous aurons Yanis Boudin qui se chargera de la monter et de la mettre en ligne. Et vous la retrouverez, bien sûr, sur le podcast, ainsi que toutes les autres émissions. Vous irez sur le site d'Esprit Occitanie et vous pourrez les écouter tranquillement où et quand vous voulez. Merci de votre fidélité, belle journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous, la période est compliquée, soyez très prudents et à bientôt.